posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, l'épreuve, présenté par Nicolas Dose.
Bonjour et bienvenue, voilà, en route avant la finale, dernière émission, donc à une semaine de la finale. La semaine dernière, on a vécu au rythme de 10 to 11, qui est coachée par Chantal Baudron, cette blockchain privée au service des entreprises, également Displace, avec Marie Gastel, qui est emmenée par Geoffroy de Bec-de-Lièvre. Il s'agit de la vente d'espaces digitaux, d'espaces publicitaires digitaux. Cette semaine, les deux derniers lauréats des éliminatoires, il n'en restera qu'un, bien sûr, dans une semaine, s'appelle Jade Francine. Bonjour Jade.
Bonjour.
Bienvenue avec We Maintain, et vous retrouverez Julien Latouche avec votre Romain dans un instant. Jade est accompagnée, vous le savez, par celui qui l'a sélectionné, Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice.
Bonjour Nicolas.
Et puis bien sûr, j'ai à mes côtés Laure Closier. Bonjour Laure.
Bonjour Nicolas.
Je vous rappelle en deux mots quel est le job de We Maintain. C'est de la maintenance pour les ascenseurs, voilà. La première plateforme d'ascensoristes. Il y a un message qu'elle ne dit pas trop, c'est ascensoriste, osez franchir le pas, osez voler de vos propres ailes, sortez de l'emprise des quatre géants mondiaux qui dominent ce secteur pour devenir ascensoriste indépendant. Et donc, elle apporte une véritable solution pour l'ascenseur qui est quand même le moyen de transport le plus utilisé au monde. On y va.
BFM Academy, le choix des coachs.
Bon, il s'appelait Spark Horizon Ever et We Maintain, Fabrice Marcella. Et à la fin, on a d'ailleurs douté, hein, on savait pas trop ce que vous alliez choisir. Vous avez choisi We Maintain et Jade. Pourquoi ?
Oui, pourquoi ? Déjà parce que c'est une activité qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Je rencontre plein de startups au quotidien.
Des plateformes de mise en relation, vous en connaissez
ouais,
bien.
Mais sur le secteur de l'immobilier, c'est pas le secteur le plus sexy, en tout cas, sur lequel les startups se lancent. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement original et intéressant. Ensuite, c'était celle pour laquelle je pouvais apporter rapidement de la valeur de par l'environnement dans lequel je baigne. Ensuite, c'est une start-up qui met en avant aussi ses collaborateurs, ses intervenants. Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement humain aujourd'hui dans la manière dont elle présente son activité. Et puis, je pense que le marché est extrêmement mûr pour accueillir ce type d'activité et prêt à se retourner, en tout cas, pour accepter ce type de service.
Alors, je crois bien que c'est Otis, l'un des fameux géants de l'ascenseur qui chiffre le marché à 35 milliards de dollars au niveau mondial, un truc comme ça.
Et avec 35 à 40% de marge aussi ouais, sur ce secteur.
C'est quelque chose d'assez astronomique. Jade Francine, avec We Maintain, qu'est-ce qui vous pousse à croire que, là, dans une semaine, vous allez emporter le morceau lors de cette finale? Parce qu'avoir été choisi par Fabrice Marcella, c'est une étape hyper importante,
ouais.
Mais il y en a une quand même à vivre dans quelques jours.
Alors, je pense qu'en effet, on répond vraiment à un besoin client, enfin des particuliers. Les ascenseurs qui marchent à moitié, ça agace tout le monde. Il y a vraiment un besoin de service. L'autre aspect que We Maintain met en avant, c'est en effet la dimension humaine. Nous, le digital, il vient pas là pour détruire des emplois, c'est au contraire pour valoriser ceux qui créent le service, donc les techniciens. Et finalement, il y a peu de solutions qui s'adressent à ces personnes qui pourtant maintiennent nos bâtiments. Et je crois qu'il y a vraiment un alignement de planètes sur le fait que l'immobilier est prêt, le modèle plaît. On a déjà gagné un prix aux États-Unis à Harvard. Enfin, je pense que
vous êtes la
chose
première start-up européenne à avoir gagné un prix de start-up à Harvard.
En effet.
Voilà.
En effet.
Juste le souligner. Donc, il n'y en a pas d'autres.
Non, il n'y en a pas d'autres. Bon.
Et pourquoi vous insistez beaucoup sur le fait que c'est pas de la réparation, mais de la maintenance? Vous dites énormément, c'est même dans le nom de la boîte.
Oui, parce que la maintenance, c'est obligatoire, en fait. C'est réglementé, c'est obligatoire, et tout le monde doit avoir un contrat de maintenance. Donc, à l'heure actuelle, tous les gens qui ont l'ascenseur ont un petit souci là-dessus.
Bon, ça veut dire que les syndics, les offices HLM, tout ça, tout le monde présent et tout le monde vous connaît?
Maintenant, oui. Grâce à BFM. Merci la BFM Academy. Merci.
Si elle remporte la finale. Bon, tout de suite, on va partir dans l'univers que lui a préparé Fabrice Marcella pour la préparer donc dans la perspective de cette finale.
BFM Academy, le coaching.
Préparation des éléments de langage, préparation de la finale, du stress de 7h30 avec les restes des coachs qui vont se transformer en lions, comme nous dira peut-être plus tard Laure Closier, qui, je sais, s'attend au pire. dans la préparation à cette finale, il y avait l'idée de faire rencontrer quelqu'un, un spécialiste du secteur. En l'occurrence, vous avez choisi Marc Oppenheim, qui est directeur général de Crédit Agricole Immobilier, Fabrice Marcella. Pourquoi Marc Oppenheim?
J'ai choisi Marc Oppenheim parce que il est directement dans la cible visée par Jade et WeMaintain.
C'est pas les banquiers, quelle cible?
C'est Crédit Agricole Immobilier. Donc on parle de promotion, d'exploitation, de transaction, et finalement c'est un acteur du secteur. L'intérêt pour elle, c'était de rencontrer un directeur général d'un grand groupe pour partager avec lui une vision du secteur, et puis aussi pour la challenger sur sa valeur. Sur la valeur en tout cas de son service. Et Crédit Agricole Immobilier a l'habitude en plus de travailler avec des startups, de co-créer avec des startups, en tout cas de chercher des éléments différenciants à proposer à leurs propres clients. Donc pour moi, il était parfaitement dans la cible recherchée et visée par WeMaintain.
Bon, c'est un bon choix, Jade Francine, d'avoir vu Marc Oppenheim.
En effet, mais je crois que Fabrice a déjà tout dit. En effet, le Crédit Agricole Immobilier, ils sont présents sur toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'immobilier. Ils ont donc des ascenseurs en gestion et
vous n'avez pas dit, vous savez, moi, Schindler Otis, ça marche très bien, donc...
Ben non, parce qu'en réalité, ça marche pas pour grand monde. Il y a vraiment un besoin de transparence sur ce marché et de fiabilité du service, et c'est pour ça que même les très gros acteurs tels que Crédit Agricole Immobilier sont intéressés pour échanger avec nous.
Bon, on rencontre pas le directeur général de Crédit Agricole Immobilier en y allant les mains dans les poches. Évidemment, ça se prépare.
Un matin du mois de mai, Fabrice Marcella, notre coach spécialisé dans la relation start-up et grand compte, a convoqué Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain, pour une petite séquence de coaching. Le patron du village Baïséa avait une idée bien définie de ce qu'il devait lui dire avant qu'elle ne rencontre un grand acteur de l'immobilier.
Alors j'ai pu avoir un super rendez-vous, avec Marc Oppenheim, qui est le directeur général de Crédit Agricole Immobilier.
Eh ben c'est parfait, top. Un client que je vais avoir, parfait.
En tout cas, on va tout faire pour que ça fonctionne. J'ai 3-4 conseils en tout cas à partager avec toi dans la préparation de ce rendez-vous. Okay. Le premier, il me semble très important que tu puisses partager avec ce dirigeant d'une grande entreprise ta vision et une vision partagée aussi avec la sienne. L'idée, c'est de trouver en quoi WeMaintain va lui permettre d'avoir un avantage concurrentiel toutes les fois où il est sollicité pour répondre à un appel d'offres. Ça, c'est le premier point extrêmement important pour moi. Le second, t'es une start-up et il y a plein d'avantages à être une start-up. Donc ces avantages-là, il faut absolument les mettre en avant. C'est ton agilité, ta capacité à être en synergie avec les attentes de ce grand groupe, en faisant néanmoins attention à une chose, à pas être trop tech. Ne pas surjouer le côté start-up, je vais révolutionner, je sais pas quoi. Donc non, là on est quand même en relation business quand même avec un dirigeant d'un grand groupe. On n'est pas là pour survendre pour autant ce que fait WeMaintain. Ensuite, il va falloir trouver les moyens de le rassurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est une start-up, on a beau avoir le plus beau produit au monde, et c'est ton cas, mais comment faire en sorte de rassurer un grand groupe comme Crédit Agricole Immobilier? Pour ça, ta connaissance du marché, premières références que tu as réussi à décrocher sont autant d'éléments qui vont lui permettre de croire en toi, de croire en ta promesse. Je pensais aussi à une chose, peut-être que de lui proposer de faire un pilote sur un échantillon de clients est une manière aussi de faire la preuve de ton concept. Tu le sais sûrement, mais finalement, vous, start-up, vous reprochez souvent aux grands groupes leur temps de décision. Et les grands groupes reprochent souvent aux startups finalement d'avoir une très belle slide. Mais derrière, voilà, c'est difficile d'incarner cette promesse-là. Donc comment faire en sorte de dépasser cette image-là que peuvent avoir ces grands groupes?
Surtout dans l'immobilier.
Et surtout dans l'immobilier, tu me confirmes.
Oui.
Donc voilà.
De ton côté, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'attend Marc de notre rencontre? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose sur WeMaintain ou quoi que ce soit?
Alors, en tout cas, il est un, ravi de te rencontrer. Deux, ce qu'il attend, c'est de travailler avec toi sur des projets extrêmement rapides. Il est à la recherche d'innovation et d'open innovation et de créer ces synergies croisées, finalement, entre ce que tu proposes et ce que propose de façon plus traditionnelle un acteur comme le Crédit Agricole Immobilier.
Bon, Fabrice, vous avez pris la main là visiblement sur cette préparation à la rencontre. Est-ce que vous sentez bien l'affaire?
Oui, mais en plus, Jade est arrivée extrêmement bien préparée. Jade est une tueuse. Hein. Enfin, moi, j'ai fait un peu de fine-tuning, mais globalement, Jade connaissait très bien effectivement le secteur de Crédit Agricole Immobilier. Et puis au-delà de ça, elle avait tout de suite la bonne posture. Donc, j'ai essayé quand même de l'accompagner et de lui apporter un petit peu de valeur dans cet échange.
Bon, vous êtes bien préparée donc pour cet échange. Vous avez regardé un peu ce que c'était que Crédit Agricole Immobilier.
Oui, en effet, je me suis renseignée.
C'est pas mal d'arriver en ayant une petite idée de ce que fait le gars dans la vie. Quoi.
Généralement, c'est mieux. Donc, en effet, je me suis renseignée sur Internet. Après, j'ai échangé avec des startups qui bossaient déjà avec Crédit Agricole Immobilier et j'ai même réussi à trouver des gens qui connaissaient déjà Marc Oppenheim. Donc, oui, j'étais plutôt...
Elle rigole pas, hein, Jade.
Non, mais je me prépare. Il faut se préparer. On n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne impression. Donc, en effet,
c'est challenging même pour son coach. Hein. Enfin,
on n'a qu'une seule fois une chance de faire une bonne impression.
Tout à fait. Voilà.
Ouais. Et ben justement, cette rencontre, elle a fini par avoir lieu. Regardez.
Pour cette rencontre, c'est Marc Oppenheim, le directeur général de Crédit Agricole Immobilier, qui a accepté de rencontrer Jade Francine. L'entrepreneuse joue gros, c'est un client potentiel, et elle a prévu de lui faire ce qu'elle appelle une présentation rapide, qui va s'avérer être en fait un peu longue.
Je vais vous faire une courte présentation sur WeMaintain, parce qu'en effet, on a identifié qu'il y avait quand même quelques points à améliorer au niveau du service. On a bien rappelé que l'ascenseur, c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. C'est deux fois, à Paris, juste pour vous donner une idée, c'est deux fois le métro et le RER combinés tous les jours. Beaucoup d'intermédiaires au milieu, voilà. Vous avez une panne, donc en fait, le gestionnaire généralement va parler au commercial, qui lui va parler au contremaître, qui va parler au chef d'équipe, qui ensuite va trouver le technicien qui est intervenu sur l'ascenseur. Alors que la personne qui peut vraiment répondre à votre besoin, c'est justement ce technicien, parce que c'est lui qui fait le travail sur l'ascenseur.
10 minutes plus tard.
L'idée, c'est qu'on travaille de pair pour vous offrir un nouveau service.
Merci, Jade.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime bien l'idée d'offrir une solution pour le diffus. Pourquoi je dis le diffus? Parce que les grands ensembles qu'on gère... on est sur des parcs importants, des récurrences très importantes des actes de maintenance préventive et curative. Et je pense que là, une solution telle que vous la proposez n'est pas forcément hyper adaptée. On a quasiment du technicien à demeure ou du quasi à demeure.
C'est un peu ça.
Ouais, mais je pense que vous avez intérêt à choisir un créneau où vous apportez quelque chose que les offres n'offrent pas. Et donc sur les grands ensembles, moi j'y crois pas trop. Deuxième sujet que j'aime bien, c'est la relation directe ou le sentiment de propriété du mainteneur. Ça, je pense que vous avez un super insight. La déresponsabilisation, c'est vachement handicapant. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal. La contrepartie, c'est un peu compliqué, c'est d'arriver à convaincre, et l'assurance fait pas tout, c'est bien le deal avec AXA, qu'on va être conforme. C'est la hantise du propriétaire ou de l'exploitant, c'est l'ascenseur qui tombe avec un gamin dedans.
Ah, bien sûr.
Et ça, c'est le vrai point... qui est compliqué dans le dossier, c'est comment on arrive à donner cette assurance qualité. Donc j'aime bien l'idée de la labellisation, j'aime bien l'idée du deal avec l'assureur pour leur permettre de faire ça. Ce qui est plus compliqué, c'est que vous allez mettre en face des assets ou des propriétaires, des entreprises qui sont des entreprises de petite taille, puisque par construction on est quasiment dans le URL ou la SASU, et donc quelqu'un qui n'a pas de track record et qui n'a pas forcément dans la durée en tant qu'entreprise, ça c'est un petit peu plus ingrat.
Chaud quand même. Vous savez, là, la rencontre qui devait être sympa, je vais vous accompagner dans la vie, Ça s'est mal passé?
Non, ça s'est pas mal passé, mais je pense que d'avoir des caméras, ça change aussi un peu l'ambiance d'un rendez-vous. Mais dès qu'en fait on s'est retrouvé avec Marc, parce qu'on a échangé par la suite,
il y a eu un after.
Il y a eu un after, after BFM.
On sert à ça aussi.
Merci.
On peut avoir plusieurs métiers. Hein. Même Facebook va le faire. Donc à la limite, BFM Business, pourquoi pas? On est un média comme un autre.
Du coup, non, mais j'ai pu échanger en fait avec vraiment la personne qui décide des prestataires pour l'ascenseur et qui tout de suite m'a dit mais enfin une nouvelle solution sur ce marché. Donc là, j'ai un meeting avec eux très prochainement pour faire un pilote dès juillet.
Bon, donc il a été chien devant les caméras, mais sympa après. Mais
tout le monde est toujours un peu stressé devant les caméras.
Il y avait des caméras.
Pas du tout, non. Ok. Non.
On retrouve Laure Closier pour cette partie un peu atypique de l'émission qui s'appelle Les questions qui tuent.
BFM Academy. Les questions qui tuent.
Ça s'appelle la roue libre absolue. Elle a tout décidé.
On lui a laissé carte blanche. Du coup, elle a raconté n'importe quoi.
Carte blanche pour nous faire des questions QCM destinées à nos candidats quand même très très ciblés sur leur domaine d'activité.
Oui, mais c'est des questions qui tuent pas. Alors, première question, Jade, qui a créé l'ascenseur en 1857? Première réponse, James Elevator.
Ça peut pas être ça.
Deuxième réponse, Robert Schindler. Ou c'est Elisha Otis?
Elisha Otis, réponse C.
Absolument, premier ascenseur à New York dans un magasin de Broadway. James Elevator n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Deuxième question. Si le poids autorisé dans mon ascenseur est de 250 kilos, combien de personnes je peux faire rentrer au maximum? Réponse A, autour de 3 personnes de 80 kilos. Réponse B, 2 adultes, 1 enfant, 1 caddie de supermarché plein et 1 bébé labrador. Réponse C, ça dépend vraiment des personnes.
Allez, on va dire la réponse A.
C'était les 3 réponses, les 3 fonctionnent.
Allez, trois fonctionnent.
Comment ça,
bien.
Le bébé labrador?
Ça dépend. Non,
bah, vous ferez le calcul chez vous d'un caddie, un bébé labrador et un enfant.
Quelqu'un a fait le calcul du caddie, de l'enfant, du bébé
labrador.
On est des experts quand même.
Combien de temps dure un elevator pitch? 1 heure, car on vous coince dedans jusqu'à ce que vous disruptiez quelque chose, ou 45 secondes, en gros, le temps d'aller du premier au cinquième étage?
Réponse B.
Absolument, le temps de dire autour de 200 mots. Que vient de lancer...
Parce qu'un elevator pitch, c'est pas un ascenseur.
Non, c'est vous êtes, ouais, dans, absolument. Vous êtes dans un ascenseur et vous devez pitcher jusqu'au cinquième étage.
Voilà.
Que vient de lancer Disney? Réponse A, des pitchs dans le train de la mine. Réponse B, des pitchs dans la tour de la terreur. Ou réponse C, des pitchs dans le royaume d'Alice au pays des merveilles. Fabrice, c'est pas à vous qu'on pose
la question. Non, je dis rien, mais j'ai la
réponse. Je n'ai pas la réponse, que je ne vais pas à Disney, mais je dirais peut-être réponse B.
C'est la réponse B dans la tour de la terreur. Ça met assez mal à l'aise de les voir pitcher en tombant de 13 étages. C'est assez dérangeant.
On va essayer.
Question suivante. Quel est le livre de chevet de Stéphane Soumier? A. Le Cat Schneider, pardon, qui raconte la dérive d'un homme unique rescapé d'un accident d'ascenseur. B. Ascenseur pour le futur, l'histoire d'un adolescent harcelé qui découvre une passerelle pour le futur. Ou C. L'inconnu de l'ascenseur, une histoire d'amour sous fond de panne électrique. C'est dans la collection Harlequin.
Réponse A, évidemment, c'est un de ses bouquins préférés.
Le Cash Tider, absolument.
Excellent bouquin.
Comment vous savez ça?
Excellent bouquin. Parce que on est déjà passé
il vous a raconté
sur Good Morning Business.
Parce que c'est une tueuse, donc elle a appelé tout le monde avant de venir.
On s'est final. Moi, j'aurais pas su répondre. Et on bosse ensemble depuis 10 ans.
Bah oui, je l'ai fait lire à l'équipe. J'ai fait lire ce bouquin à l'équipe.
Tout de suite, une séquence qui s'appelle la Minute Digitale, le conseil digital pour We Maintain.
BFM Academy, la Minute Digitale.
Et j'ai le plaisir d'accueillir, comme la semaine dernière, Frédéric Lanier. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes le président de Pentalogue. Vous produisez des solutions de logiciels, des solutions numériques pour les startups. 1000 startups clients dans le monde, quand
même. À peu près, oui, à peu près sur toute la planète. Ouais.
Et bien voilà, le conseil digital de Frédéric Lanier à We Maintain.
Bon, alors, d'abord, bravo pour être ici, Jade, c'est probablement pas le fruit du hasard, tout le monde n'arrête pas de dire que vous êtes une tueuse, donc j'en suis convaincu, je commence à avoir peur. Ceci étant dit, j'ai essayé de comprendre comment avait marché l'entreprise jusqu'ici, même si c'est pas en tant qu'entrepreneur que je parle, mais en tant qu'expert digital, et j'ai compris que vous êtes avant tout un formidable réseau, petit réseau d'experts, et que vous connaissez merveilleusement votre métier, et que c'est ce qui vous a beaucoup, beaucoup aidé. Parce que d'un autre côté, quand je regarde où vous en êtes digitalement, j'ai pas du tout la même impression pour le coup, et je suis même un peu un presque gêné, si vous voulez. Fondamentalement, quand on arrive sur votre plateforme, et parce que votre promesse est digitale, et donc c'est une question de business model, moi, que je me pose. Si j'étais investisseur chez vous, je me dirais, on me parle de faire une plateforme digitale, et je ne la trouve pas. Et je la trouve pas dans la vie, par exemple, de l'émission, c'est-à-dire que aujourd'hui, je vais sur vos réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup, ça enchaîne pas beaucoup derrière ce qui se passe en ce moment, et c'est un peu des preuves, et des preuves que l'on trouve dans la plateforme elle-même, telle qu'elle est, et qui, à mon avis, mérite beaucoup de travail. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est un petit peu pêle-mêle. J'ai fait travailler quelqu'un avec moi et je vous remettrai cette fiche à la fin. Cette fiche, elle peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ce sont des gens de très très haut niveau qui travaillent pour les plus grands médias du monde qui l'ont établi. En fait, ce que l'on voit, c'est que par exemple, vous nous dites que vous voulez un service international. Je vais sur le chatbot en anglais, il est un peu mélangé avec du français. Je ne comprends pas au départ quelle est la proposition. J'ai un petit clic, je peux cliquer quelque part pour aller voir la proposition, mais en fait, on commence à m'enrôler. Je sais toujours pas de quoi il est question. En fait, il fallait que je scroll down pour savoir ce que vous faites. Et donc là, j'ai vraiment une série de problèmes qui m'apparaissent un petit peu lourds. Alors, je vais arrêter sur le UX UI. Je pense qu'on s'est compris sur le « il y a des choses à faire, vous avez des fonds maintenant » et donc je pense que ça va servir aussi à ça. On a regardé également sur le plan finalement tech, où vous en êtes sur le plan tech. Et sur le plan tech, vous avez développé avec un grand standard de marché, c'est très très bien d'aujourd'hui. À la limite, il n'était pas utile d'utiliser un outil pour ce que vous avez fait aussi potentiellement performant. Par contre, vous avez de nombreuses failles de sécurité, dont une dont je vous entretiendrai un petit peu après l'émission.
Bon, alors digitalement, pour reprendre le terme de Frédéric, ça coince. Digitalement, la promesse digitale qui est quand même au cœur du business model, on la cherche un peu et pas assez de présence sur les réseaux sociaux. Même le côté international se brouille avec des multilangues. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, ces remarques un peu dures, c'est vrai quand même, de la part de Frédéric?
En effet, on a levé des fonds pour avoir de nouvelles personnes dans l'équipe et remédier à tout ça. L'autre point, c'est qu'on se rend compte que, certes, la plateforme, elle est utile parce qu'elle permet le suivi également. C'est l'outil qui permet aux techniciens de travailler de façon autonome et indépendante. Mais on reste dans le monde de l'immobilier qui, lui, est très peu digital, finalement. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est bien, mais nos clients les utilisent peu. Enfin, là-dessus...
Mais il faut enrôler quand même.
Oui, mais c'est souvent après une rencontre telle qu'avec Marc, en fait, vraiment en one-on-one, un vrai meeting physique, que ça se passe.
Et alors, peut-être un mot sur la sécurité. Effectivement, Frédéric a la délicatesse de vous garder confidentiel les éléments qu'il a pu trouver, mais c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler concernant votre offre digitale?
Non, alors absolument pas. Donc je suis ravie qu'on puisse échanger.
Voilà. Si, il est normal que l'on ne fasse pas état de l'intégralité des éléments qu'on a pu trouver, mais il est quand même pas mal d'avoir un spécialiste qui lui.
Mais Jade n'est pas la seule, hein, c'est une critique.
Oui, mais de toute façon, ils auront tous des problèmes de sécurité quand on fait
appel à un pro. Tout le monde en a.
Voilà. Il est normal. Il est normal et sain d'avoir des
problèmes de sécurité.
Mais il est sain de les éliminer.
Bon, en tout cas, merci infiniment, Frédéric Lagnon. On vous retrouvera tout à l'heure, bien sûr, avec votre Robin. Pour terminer, voici l'ultime conseil de Fabrice Marcella.
BFM Academy, l'ultime conseil du coach.
On aura Fabrice 10 to 11, on aura Displace, on aura votre Robin, ce ne sont pas des Mickey. Donc il va falloir assurer, là, dans une semaine, ultime conseil avant la finale.
Alors, ce que je souhaitais dire à Jade, c'est que déjà, c'est une émission qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. C'est en public. Et ceux qui votent, faut que tu t'en souviennes, c'est le public, ce sont pas les coachs. Donc ceux qu'il faut séduire, c'est le public. Ensuite, tu vas avoir des coachs en face de toi qui vont chercher à te déstabiliser.
Te démolir même. Hein.
Souvent de mauvaise foi.
Ouais. Ah oui,
mais
non,
attention
oui.
À Evelyne là-dessus.
Non,
mais voilà.
Volontairement de mauvaise foi. Je vous rappelle qu'une partie des coachs vont se transformer véritablement en accusateurs en chef avec un maximum de mauvaise foi. Je leur demande un maximum de mauvaise foi.
C'est le but. Par expérience, donc faut que tu restes calme, que tu souris. Que tu répondes bien sûr aux questions. Et puis, je pense que c'est un jeu d'équipe. Donc, il faut absolument qu'on arrive à jouer ensemble. Et le défi maintenant, entre aujourd'hui et la finale, c'est qu'on s'entraîne à ça. Mais je suis pas d'inquiétude, t'es une tueuse. Et enfin, vous parliez de Mickey tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai une tueuse à côté de moi.
Oui. Elle les mange au petit-déj.
Elle les mange au petit-déj, voilà. Bon, merci à Fabrice Marcella. On va marquer une pause dans cette émission. On va se retrouver d'ici quelques instants avec notre dernier sélectionné pour cette saison 13. Il s'appelle Julien Latouche. Il a créé Votre Robin. C'est de la recherche d'avocats. C'est de la mise en relation entre les justiciables et les avocats. Et bien sûr, Evelyne Platnik-Cohen avec lui.
BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, l'épreuve. Présenté par Nicolas Dose.
Voilà, dernière partie donc de cette émission en route avant la finale. On a accompagné nos trois premiers futurs lauréats, enfin, futurs finalistes. Il en reste un, il s'appelle Julien Latouche. Il est venu nous présenter votre Robin. Il est désormais accompagné par Evelyne Platnik-Cohen. Je vous rappelle qu'il s'agit de trouver un avocat, l'avocat qu'il vous faut, sur une plateforme internet qui est véritablement dédiée à ça. L'avocat sur mesure pour le justiciable avec qui il peut utiliser des mots de la vie de tous les jours. La mise en relation est facturée 5 € et 80% pour l'instant des mises en relation réalisées par votre Robin se sont traduits par une collaboration entre l'avocat et le justiciable. C'est parti.
BFM Academy, le choix des coachs.
Bonjour Evelyne Platnik-Cohen.
Bonjour Nicolas.
Bon, ça fait quelques jours que vous vivez une partie de votre existence aux côtés de Julien Latouche et de votre Robin. On va revenir quand même un petit peu sur la séquence 2 de cette saison, la séquence des éliminatoires, et comprendre véritablement pourquoi vous avez choisi Julien, c'est notre plus jeune candidat, hein, il a à peine 20 ans, avec votre Robin.
Ben, je pense d'abord que j'ai respecté ma parole par rapport à la présentation qu'on a pu faire de mes souhaits. On avait trois belles entreprises. On avait Ideta, on avait Solène et on avait votre Robin. On avait ces deux premières entreprises, Ideta, extrêmement intéressantes, puisque Ideta est sur le chatbot et vraiment répond à des problématiques que tous les sites internet et tout, enfin, beaucoup d'entrepreneurs ont aujourd'hui sur le net. Solène, une nouvelle norme sur le soleil, plutôt très intelligent et sûrement beaucoup de perspectives de développement.
Pour l'immobilier.
Et puis Julien avec votre Robin qui a été pour moi alors le plus jeune certes comme quoi c'est pas sur l'âge mais c'est pas du tout l'argument parce que franchement en arrivant je ne savais pas qui j'allais choisir mais d'un point de vue vente et marketing avec une solidité et un discours et une ils ont tous une volonté de réussir, mais là, je vois avec Julien le chemin de la réussite. Alors, je pense que encore Solène et Ideta ont à réfléchir sur leur positionnement vente et marketing, ce qui n'est pas le cas de Julien, qui a vraiment déjà un super niveau actuel, malgré son âge, puisque Julien a 20 ans.
Mais c'est pas un handicap.
Mais c'est pas un handicap. La preuve, c'est pas un handicap.
BFM Academy, on a eu des tout juste majeurs déjà par le passé. Bon, c'est dans une semaine la finale. Julien, vous aurez trois challengers, We Maintain, Displace, 10 to 11. Qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'avec votre Robin, vous avez une chance de convaincre le public qui nous regardera pour être le lauréat de cette saison 13?
Je pense que ce qui va vraiment nous distinguer, c'est le fait qu'on réponde à un véritable besoin du quotidien. Souvent, les gens nous disent « Oui, mais les gens qui font appel à un avocat, bon, bah, il n'y en a pas beaucoup, le marché est tout petit. » Mais en fait, si on réfléchit autour de la sémantique, le marché, c'est pas les gens qui font appel à un avocat. Notre marché, ce sont les gens qui ont des problèmes de manière générale. Et on a tous des problèmes. J'ai déjà eu des problèmes, vous en avez peut-être déjà eu, et on en aura tous un jour. Donc là, notre idée, c'est de recréer un nouveau langage et d'amener les personnes qui subissent un litige du quotidien ou même un petit problème vers l'expertise de l'avocat qui est finalement très pointu et qui peut leur amener à leur rendre la vie meilleure.
Bon, eh ben écoutez, de toute façon, ça se décidera ça dans une semaine. Donc vous avez été accompagné par Evelyne Platnik-Cohen qui vous a organisé un programme aux petits oignons.
BFM Academy, le coaching.
Le fameux coaching en préparation de la finale, Evelyne Platnik-Cohen. Alors, il fallait organiser une rencontre avisée avec Julien Latouche et votre Robin. Vous vous êtes tourné vers Sandra Legrand, qui est la cofondatrice de Yapuka.org. C'est une plateforme qui entraîne les étudiants à la prise de parole à l'oral. Pourquoi ce choix, Evelyne?
Alors, j'ai pas choisi Sandra par rapport à son nouveau modèle Yapuka, mais plus par rapport à ce qu'elle avait fait avant, puisque derrière elle, elle a plus de 20 ans chez Calidea, c'est une entreprise qu'elle a fondée sur les comités d'entreprise. Et je me souviens que lors de l'émission, une des choses que Julien a dit, c'est « je veux aller vers les comités d'entreprise pour aller beaucoup plus vite et me faire connaître ». Donc moi, ça fait tilt. Sandra, on a écrit un livre ensemble, donc je la connais très bien. Elle est punchy, elle est généreuse, elle est capable de donner. Donc j'ai dit « voilà, je mets Sandra face à Julien et que Julien aille prendre toutes les informations pour pénétrer ce nouveau marché ».
Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, Julien, il n'a pas tellement besoin d'être coaché pour la prise de parole lors des entretiens oraux.
Non.
C'est quelque chose qui marche plutôt bien.
Ouais.
C'était un bon choix, Julien, Sandra Legrand?
Oui, c'était vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'on veut vraiment développer ce côté communauté d'entreprise et c'est une personne qui a énormément d'expérience dans ce milieu-là, donc elle nous a vraiment expliqué comment s'y prendre et comment y aller de manière intelligente.
Alors avant de rencontrer Sandra Legrand, il fallait quand même préparer Julien à l'événement et c'est ce qui s'est passé.
Il y a quelques jours, Julien Latouche s'est rendu dans les bureaux de sa coach à côté de la gare Saint-Lazare. Attention, le fondateur de Votre Robin est face à la reine de la vente, Evelyne Platnik-Cohen, et pour faire de l'acquisition client, elle ne va à rien lui laisser passer.
Donc Julien, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour qu'on regarde ensemble ta stratégie commerciale, où tu en es plutôt, on va dire, l'acquisition des avocats, plus que des clients particuliers. Donc je te propose d'échanger un peu sur l'acquisition des avocats. Aujourd'hui, dans ta base de données, tu as combien d'avocats?
Alors on a à peu près 500 avocats partenaires, mais une majorité de 250-270 avocats qui utilisent le service de manière récurrente.
D'accord. Et ces 270 avocats, tu les as pu les avoir en l'espace de combien de temps?
Ça a duré peut-être entre 6 et 8 mois. Principalement par du démarchage téléphonique, et en fait, comme on a vu que ça marchait pas, on est allé directement à la rencontre des avocats.
Ok. Et aujourd'hui, ta stratégie d'acquisition d'avocats, elle se fait. Ton objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'en avoir combien de plus?
Peut-être 500 autres, et surtout être certain d'avoir une base de 1000 avocats qui utilisent le service de manière récurrente.
Donc, t'as deux enjeux. Alors, c'est intéressant parce que dans ta stratégie commerciale, comme beaucoup de gens, on peut avoir deux enjeux, pas tous, mais un, c'est un enjeu de signature, et ensuite, c'est un enjeu d'utilisation de la plateforme, tu vois, parce que parfois, dans certains cas, tu as juste un enjeu de signature, une fois que t'as signé, t'es tranquille. Mais là, en plus, t'as derrière un enjeu d'animation et de pilotage de ta base, en fin de compte, d'avocats. Et on va regarder commercialement, ça se fait bien en deux étapes bien distinctes. Donc, un, je signe, et deux, comment j'entretiens la flamme. Alors, déjà, dans la partie signature, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, ok, t'en veux 500, il reste combien de jours ouvrés d'ici la fin de l'année?
Je dirais encore 200 jours.
Il reste 200 jours, 500 avocats. T'en transformes en moyenne combien des avocats quand tu vas les voir?
Disons que pour l'instant, on va moins les voir. On essaie de faire une stratégie de parrainage où en fait, nos avocats partenaires amènent des avocats partenaires.
Ça fonctionne?
Ça marche plutôt bien.
C'est-à-dire?
On a arrêté de démarcher les avocats.
Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est une bonne chose pour une start-up qui démarre d'arrêter de démarcher des avocats?
Disons que pour l'instant, ça répond à nos demandes. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop d'avocats, on veut pas avoir trop de demandes. Et pas assez d'avocats pour y répondre. Donc, on essaie d'équilibrer un peu entre les deux. Mais c'est sûr que si on veut grandir, on va avoir besoin de plus d'avocats.
Alors, ce qui est intéressant, là, c'est de savoir, toi, déjà, quels sont les objectifs que tu vas te donner d'ici la fin de l'année. Si tu me dis, j'en veux 500 de plus, ça veut dire, c'est quoi l'effort commercial que tu vas devoir faire pour pouvoir atteindre ces 500 avocats?
Je pense qu'il va falloir recontinuer à démarcher.
Ouais. À quel rythme?
Intensément.
Alors, c'est quoi, ça?
Je pense qu'il faut qu'on arrive à une acquisition de 5 avocats par jour. Vraiment de manière très intense, en se déplaçant, en allant directement à leur rencontre, parce que le problème, c'est que les secrétariats ne répondent presque jamais positivement à nos requêtes.
Ok, alors ça, c'est un sujet qu'on va aborder, mais tu dis 5 avocats par jour, tu as 200 jours, ça veut dire que globalement, tu vas en avoir 1000. Donc déjà, tu n'as pas besoin d'en voir 5, en tout cas d'en signer 5. Donc tu vois, c'est ça que j'aimerais que ce soit beaucoup plus concret dans ta tête. Tu vois bien que tout ça, faut qu'on le réécrive noir sur blanc. C'est pas encore très clair. C'est-à-dire que c'est pas toi qui peux faire les 600 rendez-vous. Donc ça veut dire que tu vas les donner à quelqu'un d'autre. Ça va te coûter un certain chiffre. Est-ce que ce chiffre-là, tu es capable de le payer aujourd'hui compte tenu de ta trésorerie? C'est un peu comme ça qu'on doit travailler. Tu es d'accord pour qu'on travaille comme ça?
Complètement.
Ça te va?
Très bien.
Donc là, tu vas rencontrer Sandra Legrand. Je pense que ça va être un rendez-vous très important pour toi parce que pendant l'émission, tu as dit qu'un de tes biais d'acquisition va être les comités d'entreprise. Alors plutôt pour la partie cette fois-ci B2C, ça va être les comités d'entreprise. Et je t'ai pris la grande maîtresse des comités d'entreprise en France puisqu'elle a dirigé et fondé la plus grosse entreprise en l'espèce et elle connaît très très bien le sujet du comité d'entreprise. Ça te va?
C'est super. Merci beaucoup.
Bon, Evelyne, est-ce que là, vous sentez que Julien Latouche, il est paré pour rencontrer Sandra Legrand afin quand même que la rencontre soit productive?
Ah oui, franchement, oui, il est paré. De toute manière, il est naturellement paré.
Il y avait du boulot?
Il y a encore du travail à faire. Ce qui est intéressant, c'est que tout paraît limpide quand il parle, mais quand on creuse un peu, il y a un petit peu de travail, ce qui est normal, compte tenu de son expérience et de son âge. Donc je suis pas mécontente d'avoir passé du temps.
D'accord.
Avec Julien.
Julien, vous vous sentez blindé, là, avant cette rencontre?
Oui, beaucoup plus. On a vraiment pu s'interroger sur des points qui sont fondamentaux quand on monte un business et sur lesquels j'ai besoin et je vais retravailler.
C'est important, hein. On peut être super bon sur 2 minutes, puis commencer à être un petit peu flou quand ça commence à faire 5, 6, 7, 8 minutes. Hein. Et ça, c'est un vrai risque. Bon, cette rencontre, elle a donc été organisée par Evelyne Platnik-Cohen. Regardez.
Julien Latouche veut convaincre les comités d'entreprise de proposer une assistance juridique à leurs salariés. Sa coach, Evelyne Platnik-Cohen, lui avait donc organisé un rendez-vous avec une spécialiste du secteur, Sandra Legrand, ancienne dirigeante de Calidea, pour le briefer.
Merci beaucoup de me recevoir.
Bah écoutez, c'est un plaisir. Moi, j'aime accompagner les jeunes entrepreneurs. Et en plus, quand ils sont très jeunes, parce que je crois que vous avez 19 ans.
20 ans.
Ah, 20 ans. Voilà, ça fait une grande différence. Donc, ravi de pouvoir vous aider si je peux.
Bon, en fait, je voulais vraiment vous rencontrer parce qu'en fait, votre Robin veut proposer sa solution au comité d'entreprise. Et je sais que ça fait partie d'une de vos anciennes activités. Donc, j'aurais adoré savoir comment est-ce que ça s'est passé pour vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à vendre en fait au comité d'entreprise, et surtout comment est-ce qu'on fait
pour le pénétrer, bien sûr. Alors, effectivement, les comités d'entreprise, ça fait rêver tout le monde, hein, parce qu'effectivement, on voit tout de suite des masses de volume. Il faut savoir qu'il y a 35 000 comités d'entreprise en France, donc il y a de quoi faire, qui sont de tailles différentes, ils ont des budgets différents, et ils ont tous un peu des fonctionnements différents. Hein. Il n'y a pas un fonctionnement unique. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée d'essayer d'aller dans ce marché, puisque dans votre modèle, vous avez du B2C, puisque c'est l'individuel qui va acheter votre prestation, mais vous avez aussi du B2B à faire. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on équilibre un peu les modèles. Donc, effectivement, il y a les deux angles. Il y a le CE pour son utilisation, essentiellement du droit social, parce que c'est quand même ça, le droit du travail, les licenciements, enfin tout ce qui est autour du contrat de travail, etc. Et il y a l'utilisation pour les salariés, en fait, et que le CE se fasse un petit peu votre ambassadeur et qui explique un petit peu comment utiliser votre plateforme. Il y a plusieurs manières de les aborder. La première, vous savez qu'il y a beaucoup de salons de CE. Il y a beaucoup de salons de comités d'entreprise. Il y en a, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine en France, dans toutes les villes. Donc, vous n'avez pas commencé dans toutes les villes, mais peut-être, tactiquement, ce serait intéressant de commencer aussi par des villes de province, parce que Paris est toujours très demandé. Donc, il y a des gros salons sur Paris, dans les grosses villes, mais peut-être que c'est intéressant d'aller aussi tester Paris et la province. Donc, moi, je vous recommanderais ça, parce que ça permet, en fait, de tester votre offre.
Donc, par exemple, on avait pensé à une chose qui aurait été d'offrir les 5 euros que paye le client pour rencontrer son avocat et de proposer au comité d'entreprise de proposer à ses employés de rencontrer gratuitement un avocat. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est le CE qui paierait les 5 euros ou
qui les paierait ou qui ne les paierait pas et qu'on pourrait offrir?
C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. En fait, avec les comités d'entreprise, il faut toujours faire quand même un discount ou un prix ou un avantage. Parce que c'est le but, comme ils négocient pour l'ensemble de leurs salariés. Si vous leur dites, c'est comme ça et on le vend à côté le même prix, ça va pas leur plaire. C'est normal, parce qu'eux représentent 200, 300, 500, 1000 salariés. Donc effectivement, c'est une bonne idée de leur faire un prix, et donc qui rétrocède, en fait, aux salariés, et ça les incitera, à mon avis, à plus communiquer en disant, grâce à nous, c'est eux, puisqu'ils aiment bien avoir, en fait, des avantages, vous pouvez, avoir effectivement cette consultation pour 0 au lieu de 5 euros. Je vais vous souhaiter bon courage, bonne chance. En tout cas, vous êtes bien partis. Et moi, je pense que c'est bien d'équilibrer le modèle entre le B2B et le B2C. Bonne chance avec le comité d'entreprise.
Merci beaucoup.
Je vous offre mon bouquin que j'ai écrit il y a 5 ans. Donc, c'est un collector. On parle beaucoup de comité d'entreprise, forcément. Et je vous fais une petite ordonnance. Donc, point 1, les salons. Point 2, les plateformes. Point 3, peut-être le marketing direct. D'accord ? Et puis point 4, je laisse aller votre créativité pour trouver encore de bonnes idées. Et je suis à votre disposition, bien sûr. Donc, amicalement. Merci. À très bientôt. Merci. Bonne continuation.
Merci beaucoup.
Ça y est, elle a eu lieu cette rencontre avec Sandra Legrand. Alors, par rapport à tout ce qui s'est dit, comment vous imaginez la suite, Julien?
Déjà, on a fait vraiment ce qu'elle nous a dit, c'est-à-dire...
Vous avez fait tout ce qu'elle vous a dit?
Majoritairement.
Donc, super obéissant, hein.
Toujours, il faut. Pour les comités d'entreprise, donc on va se rendre à des salons. On a déjà préparé notre inscription au salon des comités d'entreprise qui aura lieu à Disneyland Paris dans les jours à venir. On a décidé aussi de vraiment travailler notre stratégie de démarchage, d'acquisition client, et de toujours, approfondir cette idée de récupérer de la clientèle par le biais des comités d'entreprise qui sont vraiment une clientèle qui est dure à obtenir, mais quand on l'obtient, ça nous permet de faire du volume et ça peut être une stratégie intéressante.
C'est marrant, c'est une drôle de porte d'entrée en fait, les comités d'entreprise. Je crois que vous êtes le premier qui me dit, moi je vais faire du business avec les CE.
Alors c'est pas notre...
Généralement les patrons ils veulent s'en passer et vous par contre vous les lorgnez.
C'est pas notre besoin principal. Par contre, je pense que ça peut être intéressant d'aller vers d'autres canaux. On a utilisé les réseaux sociaux avec une communication un peu innovante, un peu sympathique, accessible pour dédiaboliser la profession d'avocat. Ensuite, après, c'est bien d'avoir une bonne image, mais c'est important d'avoir des clients. Et si on veut vraiment avoir du volume, je pense que les comités d'entreprise peuvent être une très bonne stratégie pour nous.
C'est le passage à l'ère industrielle de votre Robin, c'est ça?
C'est ça, il faut faire du volume.
On arrive à ce moment de l'émission qui est plutôt sympa, généralement assez casse-gueule, hein, faut bien reconnaître, pour le candidat. Ce sont les questions qui tuent de leur closier.
BFM Academy. Les questions qui tuent.
Nicolas. J'ai changé, je suis plus méchante, comment, c'est fini.
Comment ça? En tout cas, moi, j'ai laissé la main à Laure sur cette histoire-là. Elle m'a soumis ses questions et je n'avais pas mon mot à dire. Voilà, elle a tout inventé. Hein.
Je suis gentille désormais. Alors, c'est parti. Julien, pourquoi les avocats portent-ils une robe? A, pour mentir comme les femmes. B, pour permettre une égalité d'apparence. Ou C, pour souligner l'autorité qui s'attache au service de la justice?
Je pense que c'est l'autorité.
Eh bien, c'est réponse B et C. C'est l'égalité d'apparence et également l'autorité. La réponse A était vraie, mais c'est une réplique de Pierre Desproges. Deuxième question. Au moment de prêter serment, les avocats jurent d'exercer leur fonction avec A, dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. B, dignité, conscience, indépendance, probité et philosophie. Ou C, dignité, conscience, indépendance, probité et abnégation.
Vous pouvez répéter la question?
Humanité, philosophie ou abnégation?
Je dirais la A.
La A,
Ou la C.
Alors c'était réponse A, mais ça n'empêche pas.
Ah ben non, Julia, parce que
c'est la A, c'est humanité, mais ça n'empêche pas de travailler avec philosophie et abnégation. Troisième question, le commerce de l'hermine est interdit depuis les années 90. Les épithètes des avocats sont donc A en belette, B en lapin, C en putois.
A.
C'est la réponse B. Les deux autres sont également interdits à la vente. Quatrième question. Selon la plateforme meilleuresentreprises.com, quel est le métier le plus détesté des Français? A, clerc de notaire. B, journaliste. Ou C, avocat médiatique?
Je pense qu'on va aller sur les avocats.
Alors j'avais dit les clercs de notaire.
Ah, les clercs de notaire,
c'est
pas mal aussi.
C'est quand même très détesté, vous savez. C'était la réponse A. Alors rassurez-vous, les journalistes
c'est
les et les avocats.
Les clercs de notaire les plus détestés.
Oui, mais rassurez-vous, les journalistes et les avocats sont quand même, ouais, quand même très très beaucoup détestés.
Moi j'aurais dit les journalistes.
Moi je les déteste d'ailleurs.
Bah oui, c'est une sale race.
Cinquième question, parmi ces personnalités politiques, qui n'est plus avocat? Qui est avocat, pardon? Arnaud Montebourg, Noël Mamère ou Jean-François Copé? Et attention, il y a une réponse D. Aucun, car ils le sont tous. C'était trop compliqué de trouver un politique qui n'est pas avocat.
Je sais qu'Arnaud Montebourg est avocat.
Bah oui, ça. Il a même été numéro 1. Enfin, il a gagné la conférence du stage. Hein.
Je dirais Arnaud Montebourg.
Alors en fait, ils sont tous avocats. Savez-vous que même François Hollande est avocat? Il a une équivalence CAPA grâce à la Cour des comptes. Je vous fais une question bonus. Meghan Markle qui vient d'épouser le prince Harry qui jouait dans la série A, Suits, avocat et costume. B, Suits, avocat et ambition. Ou Suits, avocat sur mesure.
Suits, avocat sur mesure comme votre robe.
Bonne réponse!
Tout de suite, c'est la Minute Digitale.
BFM Academy. La Minute Digitale.
Avec Frédéric Lagnier, donc président fondateur de Pentalogue, le conseil digital. Frédéric, à votre robe.
D'abord, Julien, bravo, parce que être ici, c'est pas certainement le fruit du hasard. Et ayant suivi votre parcours avant, je suis très admiratif, et pas que pour des questions d'âge. Donc, la première chose que je vais dire, c'est que analyser votre dossier n'a pas été très facile, parce que, de prime abord, la critique dessus n'est pas simple d'un point de vue digital, j'entends, puisque toute la démarche entrepreneuriale a été faite par d'autres que moi. Ce que j'ai noté, c'est que aujourd'hui, en fait, vous êtes typiquement dans le cas du start-upper qui a manqué de fonds, parce qu'en fait, vous avez globalement une bonne qualité d'exécution. J'ai une petite fiche UI/UX que je vous remettrai à la fin, qui établit que globalement, on a pas mal de good chez vous, mais il y a quand même du bad. Il y a quand même du bad qui ne vient pas que de ce manque de fonds. Globalement, votre processus d'enrôlement, votre processus d'inscription est beaucoup, beaucoup trop long. Je ne parle encore une fois que de digital. On est vraiment dans le trop long. On n'est pas dans les standards. On a un petit problème. Deuxième chose, je sais que vous avez déjà répondu là-dessus et depuis longtemps et à d'autres. Vous avez un problème de branding. Pour moi, vous avez un problème de branding. Votre Robin, même si j'ai entendu votre explication, je la comprends. Intellectuellement, je suis d'accord. Mais globalement, elle ne colle pas bien. Et puis ensuite, je vais sortir un petit peu de ma casquette UI/UX marketing, et je vais passer sur la partie plus tech. Et sur la partie plus tech, alors là j'ai un gros conseil. Il faut vous renforcer sur le plan sécurité, parce que, et je vais pas dire à l'antenne ce qu'on a pu trouver qui serait pas très bon, mais vous travaillez avec des avocats, vous allez les enrôler, et il va falloir, et à mon avis, il faut faire un gros effort sur la mise à niveau des process sécurité et des mesures de sécurité de votre site. Dernier point, c'est vraiment mon conseil, c'est de travailler plus la mise en avant de vos services pour les avocats, parce que si vous réussissez ce que je vous souhaite, et je crois que vous en avez les moyens, il va falloir leur proposer du service, à l'image d'un Doctolib par exemple, et le faire et le mettre beaucoup beaucoup plus en avant que vous le faites aujourd'hui.
Est-ce que vous manquez de fonds, Julien ? Est-ce que vous manquez de fonds pour justement régler ces petits points négatifs qu'a souligné Frédéric Lanier, le fait que le processus d'inscription selon lui est beaucoup trop long, et que le problème de branding effectivement c'est autre chose, mais vous avez besoin de fonds ?
En ce qui concerne le processus d'inscription, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est vrai, on aurait pu faire quelque chose de plus court. Maintenant, nos avocats partenaires sont vraiment effrayés de tout ce qui arrive sur Internet. Et si on leur envoie des contacts qui ne sont pas vraiment à la recherche d'un avocat, ça peut créer de la défiance et en fait leur amener des clients qui ne sont pas activement à la recherche d'un avocat. Donc c'est vrai que c'est un véritable compromis, un véritable sujet et sur lequel on a envie de travailler pour être meilleur et ne pas perdre des clients qui ont besoin de nous. Maintenant, ça mérite une réflexion. Mais c'est vrai qu'il faut trouver la juste mesure entre qualification des contacts qu'on envoie à nos avocats partenaires et intuitivité pour le client.
Juste un mot quand même sur la sécurité, véritable sujet qui a été mis en avant. Parce que je crois que votre Robin, c'est un sujet entendu, tout le monde dit que c'est un nom bizarre, parfois vous allez le garder, mais la sécurité.
La sécurité,
il faut une réponse courte.
La sécurité, on essaie de créer un processus qui, au contraire, est assez pointilleux, c'est-à-dire qu'il y a du code de confirmation, il y a une photo de la carte d'identité, une photo de la carte d'avocat, ça découle sur un rendez-vous physique, c'est-à-dire qu'on rencontre notre avocat, et tant que l'avocat n'a pas été rencontré, son profil n'est pas validé. Donc on garantit même dans nos conditions générales d'utilisation que l'avocat est un vrai avocat, ce qu'aucune autre plateforme n'ose faire au vu des risques que ça pourrait encourir.
Bon, on parlait surtout des versionnages techniques. Voilà.
Et pour ce qui est du service supplémentaire ajouté pour l'avocat lui-même, c'est sûrement un sujet qu'on traitera le jour de la finale d'ici quelques jours. Tout de suite, l'ultime conseil du coach, en l'occurrence Evelyne Platnik-Cohen.
BFM Academy, l'ultime conseil du coach.
C'est dans une semaine la finale, Evelyne Platnik-Cohen. Vous avez accompagné Julien Latouche, votre Robin. Dernier conseil avant cette finale, il aura quand même des challengers épais.
Oui, alors c'est exactement l'inverse de ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire surtout ne change rien. Il a tout ce qu'il faut. D'habitude, c'est vrai, je passe un peu de temps à les coacher, etc., les années précédentes, mais alors là, quand il parle, quand il répond, ses objectifs, la clairvoyance et la clarté de son discours est vraiment extraordinaire. La seule chose, Julien, là où il faut que tu fasses attention, c'est que tu vas voir les coachs face à nous, ils vont vouloir nous détruire. Pourquoi ? Parce qu'on est potentiel gagnant, on est les meilleurs. Donc ça va être très 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 dur en finale. Ne te laisse jamais déstabiliser par une question. Ils sont là, ils vont te faire que des questions. Donc on va essayer de lister tout ce qui fait mal, on va y répondre. On va travailler ça avant la finale et surtout reste zen, à mon avis on va gagner.
Et justement donc qu'est-ce qui nous attend dans une semaine Laure Closier, parce que ça y est.
Eh ben oui, le 25 juin au studio Gabriel en direct à partir de 19h. Là, c'est vraiment comme l'a dit Evelyne, c'est la fosse au lion parce que c'est le moment où les coachs vont être les plus brutaux, les plus agressifs. C'est le moment où ils vont agresser les autres candidats. Alors les autres candidats, il y a bien sûr Julien avec votre Robin, il y a Displace, il y a 10 to 11, il y a We Maintain. Il faudra voter pour ceux que vous avez envie de soutenir. Il y a 150 000 euros de dotation publicitaire à gagner sur BFM Business. Donc c'est un enjeu important pour celui qui va gagner. Et la meilleure façon de se préparer, c'est quand même de se préparer au lion.
Ça se passe le lundi 25 juin, c'est à 19h en direct sur BFM Business, donc à la semaine prochaine.
BFM Academy saison 13, le 25 juin, il n'en restera qu'un.